Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, bon matin et bienvenue sur les ondes de Canal M au Kiosque Magazine, excusez-moi, de ce mercredi 4 février 2015 autour des thématiques santé, cuisine et maison. Pour la revue de presse, aujourd'hui, vous serez en compagnie de Sophie Chevance, de Janine Petitbois. Allô Janine.
Allô, comment ça va Sophie?
Ça va très bien et toi?
Eh oui, ça va bien.
Et puis également, donc, de Safia Larabi. Allô Safia, comment ça va?
Très bien, merci. Bon matin.
Bon matin à tous. Donc, on va faire un petit tour de table pour la programmation d'aujourd'hui. Safia, de quoi tu nous parles, toi?
Alors aujourd'hui, j'ai un article sur les ondes électromagnétiques, celles des téléphones portables.
Ok.
À quel degré sont-elles nocives? Qu'en est-il? Démêler le vrai du faux un peu sur le poids de nos téléphones qui sont toujours sur nous.
Parfait. Janine, de ton côté, Safia, je pense que tu as un deuxième article pour nous également.
Oui. Il y a effectivement un article sur l'asthme,
okay.
Qui a eu un congrès récemment fin janvier, et ainsi qu'un autre sur le miel.
Parfait. Et toi, Janine, de ton côté?
Et moi, j'ai des petits conseils pour motiver nos enfants et aussi, de plus en plus, hein, nos invités ne veulent plus manger de viande. Alors, on va devenir végétarienne. Comment on s'y prend?
Parfait. Et puis par la suite?
Ça devrait être ça. Des petites brèves, des petites informations.
OK, parfait. Alors de mon côté, on ira côté maison pour voir comment convertir son foyer à bois en foyer à gaz. Et puis ensuite, côté cuisine, on fera un petit tour de quelques boissons avec la tisane et puis des bières de chez nous. À tout de suite!
Ah bon.
Les ondes électromagnétiques, les téléphones portables avec modération. C'est un article du magazine Mieux Vivre de novembre 2014, écrit par Clara Delpa. Alors, faut-il vraiment avoir peur des téléphones portables?
Bonne question.
Pour certains, les ondes électromagnétiques des smartphones nous grilleraient le cerveau, comme si ce dernier passait dans un four à micro-ondes. Qu'en est-il aujourd'hui de l'état des connaissances scientifiques? À défaut d'être très poussé, le principe de précaution semble de mise, selon de nombreux scientifiques et autres associations. Si l'usage du téléphone portable met notre santé en danger, une catastrophe sanitaire d'ampleur planétaire est à prévoir, avec aujourd'hui près de 7 milliards d'abonnés à la téléphonie mobile dans le monde. Et des études qui alertent sur le danger des ondes électromagnétiques depuis longtemps. Dès 1993, des craintes ont été exprimées à la suite d'un procès très médiatisé aux États-Unis envers un constructeur accusé d'être responsable du décès d'une femme par cancer, rappelle Bernard Verret, directeur de recherche du CNRS. Plusieurs milliers d'études scientifiques plus tard, aucun fait établi à partir des études humaines ne permet de conclure que les signaux de radiofréquence représentent un problème de santé publique, affirme le scientifique qui a participé à la rédaction de nombreux rapports français et européens sur le champ électromagnétique et la santé et qui siège par ailleurs au conseil scientifique de Bouygues Télécom. Reconnaissance scientifique et judiciaire, peut-on en conclure pour autant que le téléphone portable est sans effet? Non plus. D'ailleurs, on ne compte plus aujourd'hui les études évoquant les effets de la téléphonie mobile sur notre santé. L'une des dernières en date, menée à Bordeaux et parue en mai 2014, révèle une augmentation du nombre de gliomes chez les utilisateurs intensifs de portables, plus de 30 minutes par jour. Mais la science, comme souvent, va plus vite que la justice. Il aura fallu attendre 10 ans pour la Cour de cassation italienne reconnaisse en décembre 2012 comme maladie professionnelle la tumeur cérébrale d'Innocente Marcolini, un cadre d'entreprise italien qui utilisait beaucoup son téléphone portable au début des années 2000. À l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, des volontaires sains ont été exposés de manière aiguë 30 minutes à 2 heures, ou répétées, 2 heures par jour, 5 jours par semaine, au moyen d'un casque équipé d'un capteur de flux sanguin et d'un portable sur la tête. Résultat paru en 2013, on observe une augmentation de la circulation sanguine dans les micro-vaisseaux de la peau en surface. L'intérieur du crâne semble imperturbable, si ce n'est à l'encéphalogramme, de petites modifications liées aussi à un effet non thermique, mais qui ne s'observe que lorsque les patients ferment les yeux, explique le docteur René Decèze. Conclusion étonnante, quand les yeux sont ouverts, le portable n'a pas d'effet. Le portable nuirait surtout à la santé mentale. En Corée du Sud, patrie de LG et Samsung, multinationales grandes productrices de nouvelles technologies, les médecins ont nommé démence digitale une pathologie qui atteint les adolescents, grands utilisateurs de nouvelles technologies, près de 20% d'entre eux. Trois symptômes majeurs la caractérisent. Des troubles de la mémoire, un sous-développement émotionnel et une confusion mentale. Pour Byung-Gi Wang, docteur au Balance Brain Centre de Séoul, l'utilisation abusive des nouvelles technologies empêcherait le développement normal du cerveau chez les adolescents, inhibant notamment le développement de leur cerveau droit, précisément celui dont dépendent les capacités d'attention et de mémoire. Toutefois, le téléphone portable n'est pas le plus dangereux des émetteurs d'ondes électromagnétiques à la maison.
Il y a pire que ça, mon Dieu.
Eh oui. Des mesures réalisées à domicile ont montré que les expositions les plus importantes à l'intérieur des maisons sont liées aujourd'hui au téléphone sans fil, précise le docteur René de Sèze. Les gens étaient bien plus près des bases que les antennes de téléphonie mobile. Les box Wi-Fi viennent en deuxième ligne, devant les téléphones portables. Les box émettent en continu à 9 volts par mètre par la Freebox, par exemple, ce qui a conduit Priartem 4, le collectif des électrosensibles de France et l'association Robin des Toits, a adressé un courrier de doléances mi-septembre aux opérateurs de box. Donc voici pour la fin des portables et smartphones. Essayez donc de limiter son exposition en protégeant les plus jeunes. Éloignez le téléphone des implants électroniques. Ne pas trop téléphoner dans les zones de mauvaise réception ou en voiture. Téléphonez avec une oreillette. Et puis la nuit, faites aussi dormir votre portable.
À ce petit article de Safia bien intéressant sur les ondes électromagnétiques. Moi, je vous emmène, en fait, j'ai envie de vous donner quelques petits trucs pour vous garder au chaud, en fait, cet hiver. Le mois de février est arrivé. On n'est pas encore passé à travers, on va encore avoir de l'hiver. Alors, en fait, quelques petits trucs sur comment convertir son foyer à bois en foyer à gaz. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a plusieurs municipalités qui interdisent les foyers à bois. C'est le cas notamment de Montréal, oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, il semblerait que d'ici 2020, Montréal en fait, va interdire totalement l'utilisation de poêles à combustible solides sur son territoire. Donc, comment faire en fait, pour convertir son foyer à bois en foyer à gaz, si vous en avez un, de foyer à bois? Donc, voici ce qu'il faut savoir pour une transition sans surprise. Qu'il soit naturel ou propane, le gaz possède des atouts indéniables. Avec lui, pas de bûches à stocker ni à transporter, pas de fumée, pas de cendres à recueillir et pas de copeaux de bois à ramasser. Le gaz est énergétique en plus, il émet beaucoup moins de polluants que le bois. Son efficacité peut atteindre 85% dans des conditions idéales, comparativement à 20% pour le foyer à bois préfabriqué et 5% pour le foyer à bois en maçonnerie. Il fournit une chaleur quasi instantanée, stable et facile à moduler en fonction des besoins grâce à un thermostat programmable qu'on installe au mur ou qui est intégré à une télécommande. Et donc un thermostat qui est relié à l'appareil. Puisqu'il est connecté à un thermostat, il est possible de le régler par exemple à 15 degrés l'hiver quand on part en voyage, ce qui est quand même intéressant, pour prévenir les ennuis causés par le gel lors d'une panne électrique. Il prendra alors le relais. Aussi, les foyers à gaz sont dotés d'un interrupteur marche-arrêt très pratique, apprécié également lorsque le temps vient d'aller au lit ou de quitter rapidement la maison, contrairement au feu de bois qui doit rester sous surveillance tant qu'il brûle. Intéressant, certains appareils possèdent un allumeur électronique permettant de fermer le pilote après chaque période d'utilisation, d'où une économie de carburant. Et je suis en train de déchirer ma page, malheureusement. Donc, d'où une économie de carburant et d'énergie. La plupart des appareils sont également munis d'un ventilateur de circulation d'air à vitesse variable qui permet d'accélérer la propagation de la chaleur dans la pièce. Bref, c'est le combustible parfait pour qui veut remplacer son foyer à bois sans entreprendre de gros travaux. Mode d'emploi, la transformation d'un foyer à bois en foyer à gaz est beaucoup moins compliquée que ce que l'on pourrait croire. Le foyer encastrable à gaz est en effet conçu expressément pour être installé dans la cavité existante d'un foyer à bois en maçonnerie ou préfabriqué, ce qui facilite grandement le travail. La boîte de combustion renferme un brûleur, généralement en acier inoxydable recouvert ou non de céramique, dissimulé par des éléments décoratifs tels que les similibuches, des galets de rivière, des lits de pierre concassés, de fausses braises, etc. Mm-hmm. Le foyer à gaz encastrable est offert en différentes dimensions afin de pouvoir s'insérer dans la même ouverture. Petite attention sur la puissance des brûleurs qui se mesure en BTU, les British Thermal Unit. Il existe sur le marché des appareils de 12 000 à 40 000 BTU, semble-t-il. Plus le nombre de BTU est élevé, plus l'appareil est puissant. Donc, pour déterminer la puissance dont vous avez besoin, vous devez notamment tenir compte de la dimension de la pièce dans laquelle il sera installé, du nombre de fenêtres et de l'utilisation que vous en ferez. À moins qu'il s'agisse d'une très grande aire ouverte, les besoins se situent habituellement entre 25 000 et 30 000 BTU. Un détaillant expérimenté pourra également vous conseiller. Il ne suffit pas, cela dit, de retirer le foyer à bois préfabriqué puis de glisser le caisson à gaz à l'intérieur du trou pour que le tour soit joué. Quoique relativement simple, la conversion d'un foyer à bois en foyer à gaz exige tout de même un minimum de travaux qui doivent être exécutés par un technicien qualifié. Ce dernier devra d'abord élargir l'ouverture du foyer préfabriqué. Et afin de pouvoir le retirer, il faudra donc réparer le mur et souvent remplacer le manteau. De plus, le technicien devra généralement percer un trou pour y glisser le système d'évacuation composé de deux conduits qui reliera le foyer à gaz à l'extérieur. Car pour fonctionner, un foyer à gaz doit pouvoir recevoir de l'air et rejeter le gaz de combustion. Donc si le foyer existant est placé contre un mur extérieur, un trou sera percé dans ce mur. Si le foyer prend place sur un mur intérieur, les conduits seront acheminés à l'extérieur en courant par les murs intérieurs jusqu'au mur extérieur. Mmh. Autre option parfois possible, utiliser la cheminée déjà en place. Si le foyer existant est en maçonnerie, le système d'évacuation sera installé à l'intérieur même de la cheminée existante. Vient ensuite le raccordement des conduits au gaz. Pour des raisons de sécurité et d'assurance, ce travail doit obligatoirement être fait par un plombier certifié. Spécialisé en installation gazière, le foyer à gaz encastrable peut être branché directement au réseau de distribution du gaz naturel. C'est simple et rapide, mais si vous n'êtes pas connecté au réseau, l'appareil devra alors dans ce cas être raccordé à un réservoir de gaz propane, généralement de 420 livres, on nous dit, installé à l'extérieur. Le hic, vous devrez payer des frais annuels pour la location du réservoir quand même. Ces frais couvrent l'installation, entretien périodique, inspection et réparation s'il y a lieu. Il faut également vérifier la réglementation de la municipalité concernant la localisation du réservoir de gaz propane. Le coût de la conversion, de 3 500 $ à 5 000 $, incluant l'installation et le raccordement au gaz. Ajoutez également le coût d'une location d'une bonbonne de propane et celui de la quantité de gaz naturel nécessaire au fonctionnement. Donc, ça, c'est voilà. Donc, petit conseil pour convertir votre foyer à bois en foyer à gaz. Et puis, pour ceux qui sont... Semblerait-il que 2/3 des Québécois utilisent davantage les plaques électriques, en fait, le chauffage électrique. Dans ce cas, on nous conseille d'utiliser des thermostats, en fait, pour régler la température. Il semblerait qu'on peut économiser 10%, qu'on peut faire des économies de 10% sur nos factures d'électricité.
Ah, ben, c'est valable, ça.
Donc, voilà, c'était un petit texte de Jacqueline Simoneau, paru dans le Touring de l'automne 2014.
Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sur des skis. Février, en traîneau. Février, en skidoo. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer, frileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc foulard. Encore, 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 hein. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant, maudis-moi malfaisant, je t'aime, hein.
temps en temps. Débine, février compte, Diderot, février Valentine. Faut qu'on se garde au chaud, février dans le noir, février de bonheur, février désespoir, février dans mon cœur. Février coupe de rouge, février caribou, février tini rouge, février un peu chaud, février dans le bouchon. Dans le clos d'un canton, février dépression, février touche le fond. Février puis du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, maudit mois malfaisant, je t'aime, mais pas tout le temps. C'est la fête, février des heures bêtes, février débarrasse, mets donc ça sa glace. Timo, dis-moi qui en finit pas, je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime, mais plus maintenant.
Eh bien, c'est bien, hein, commencer avec notre charmant Vincent Vallière qui vient nous sortir février, février, votre poêle au bois, ma chère, convertie au gaz, c'est très intéressant. On va se réchauffer, mais moi, je vais vous parler, on sait que de plus en plus, nos invités, quand ils arrivent, ils nous parlent, là, as-tu de la viande, as-tu autre chose, des petites salades et tout.
C'est vrai, ça.
Alors, de plus en plus, on s'en va vers le végétarisme. Je vais vous parler que je veux devenir végétarienne, comment je m'y prends, un article de Mélissa Proulx dans le mois et compagnie de février 2015. Faire le saut vers le mode d'alimentation végétarien demande une volonté de faire de l'organisation et de l'éducation. Vous êtes tenté depuis des mois, voire des années, à verdir votre menu une fois pour toutes. Voici différentes méthodes, des conseils pratiques qui vous aideront à atteindre votre but. Une démarche progressive, peu importe la méthode que vous choisirez, le mot d'ordre pour réussir la transition est le suivant. Y aller progressivement. Devenir végétarien du jour au lendemain n'est pas une bonne idée, reconnaît Audrey Scoropade, naturopathe. Il est préférable d'y aller par étapes et en douceur, avec une approche positive. Au lieu de couper, on ajoute des repas végétariens à son menu. Un smoothie vert pour commencer la journée? Habitué à manger la même chose depuis tant d'années, le corps s'adapte, vit des changements et a des symptômes. Au bout de quelques semaines, ça se stabilise. Une fois que le corps trouve que ça a bon goût, ça devient plus facile et il en redemande. Cette conversion évolutive permet non seulement d'apprendre à cuisiner végé, mais aussi à s'informer. Le végétarisme n'est pas toujours gage de bonne santé, avertit Isabelle Huot, docteur en nutrition. J'ai vu plusieurs personnes faire l'erreur d'enlever la viande sans la remplacer. Pour tirer profit des bienfaits de l'alimentation végétarienne, il faut s'assurer que nos menus soient équilibrés et qu'on consomme suffisamment de protéines, de fer et de zinc notamment. Au fur et à mesure que l'assiette se diversifie, elle gagne en texture, en couleur et en vitalité, souligne Dominique Dupuis, professeur de cuisine santé végétarienne à l'Armoire du Haut. L'amour des légumes et des végétaux se développe, mais il faut être créative et s'intéresser à ce qu'on mange. Un légume nous intéresse moins. On l'apprête sous différentes formes et textures, en genre potage, curry ou grillade, pour l'apprivoiser. Réussir le virage végé en famille. Intégrer progressivement le végétarisme à la routine des repas familiaux afin que tous s'habituent aux nouveaux aliments, notamment les légumineuses et les aliments crus. Faire de ce virage un projet familial en faisant participer les enfants à la préparation des repas. Bien planifier les repas familiaux afin qu'ils soient équilibrés et variés. Au besoin, consulter une nutritionniste, des ouvrages sur l'alimentation végétarienne ou suivre un cours de cuisine. Évitez de cuisiner deux repas si un membre de la famille refuse de devenir végétarien. On prépare plutôt une protéine animale qui accompagnera le repas entièrement végétarien. Croire en sa démarche et aux raisons qui la justifient. Les enfants suivront les parents s'ils se sentent encadrés et impliqués. Quelques méthodes pour y arriver. Les trois repas. Plutôt que de réinventer son alimentation trois fois par jour, il est plus aisé de commencer par un repas entièrement végétarien par jour. Les déjeuners et les brunchs du week-end sont assurément plus faciles à adapter. On poursuit avec un deuxième repas, comme les lunchs. Une fois habitué à ces changements, on termine avec le repas du soir. Cette progression rend la transition plus agréable et plus facile pour toute la maisonnée. Un jour à la fois. À l'instar du mouvement « lundi sans viande », on détermine une journée dans la semaine où les produits d'origine animale sont proscrits. Petit à petit, on ajoute une journée, puis une autre. Il est aussi possible de choisir un nombre de jours par semaine jusqu'à en arriver à un minimum de jours avec viande, comme le week-end seulement, par exemple. Une fois qu'on aura gagné en confiance, on se lancera dans le régime végétarien 7 jours sur 7. Intérieur-extérieur. Cette méthode en trois étapes convient bien à celles qui doutent de leur talent culinaire. Il s'agit dans un premier temps d'apprivoiser la cuisine végétarienne à l'extérieur de chez soi, dans les restos ou chez des amis végétariens. Pendant ce temps, on continue de manger ses plats habituels à la maison. Dans un deuxième temps, on inverse la dynamique, on relève le défi végétarien à la maison, tandis qu'à l'extérieur, tout est permis. On en profite alors pour expérimenter les repas qu'on avait appréciés dans les restaurants et pour s'inscrire à un cours de cuisine végétarienne. Finalement, on élimine la viande et les poissons de son alimentation, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Un aliment à la fois. Substituer toute protéine animale d'un seul coup peut s'avérer ardu. Mieux vaut parfois éliminer un seul aliment à la fois, en commençant par celui dont on peut le plus facilement se passer. Certaines personnes préféreront commencer par une viande rouge et garder temporairement les autres viandes. Avec le temps, toutes les viandes rouges disparaîtront, suivies des viandes blanches et des poissons, pour une transition en douceur. On dresse une liste aussi de nos plats préférés et on vérifie si certains d'entre eux sont déjà végétariens, comme le macaroni au fromage. On transforme ensuite les autres recettes en remplaçant la viande par des substituts. Par exemple, un pâté chinois devient un pâté aux lentilles rouges ou un sans viande. Finalement, on s'approprie de nouvelles recettes végétariennes afin de compléter notre liste. Chaque fois qu'un aliment du règne animal est supprimé, on ajoute un produit du règne végétal à son assiette. Bonne dégustation! Alors, une petite brève conseil pour nos petits-enfants. Il est mauvais perdant, comment réagir? Pleurs compulsifs, colère, noir, menace de ne plus jamais jouer. Pas de doute, notre enfant ne supporte pas la défaite. Quelques astuces pour en faire un bon perdant. Valider son émotion. On lui dit que l'on comprend qu'il aurait préféré gagner et que perdre peut parfois décevoir. Valoriser ses bons coups tout au long du jeu. On lui montre ainsi que les efforts et le plaisir de jouer sont plus importants que le dénouement de la partie. Jouer honnêtement. Inutile de le laisser gagner pour acheter la paix. Notre petit volcan doit apprendre que dans la vie, parfois on gagne et parfois on perd. Donnez le bon exemple. À la fin de la joute, on échange une poignée de main avec le gagnant et on le félicite chaleureusement. Misez sur des jeux de coopération. On propose de faire un casse-tête, une construction ou une grande toile familiale afin que notre enfant apprenne la collaboration.
Le produit phare de cette saison, la gelée royale qui vole la vedette. Les produits de l'abeille gagnent en popularité grâce, entre autres, à leur pouvoir cicatrisant. Ça a donné naissance à l'apithérapie, une gamme de soins thérapeutiques dont plusieurs utilisent la gelée royale. Et cette dernière est maintenant la star du monde des cosmétiques. Alors c'est quoi ? La gelée royale est une substance gélatineuse destinée à l'alimentation des larves d'abeilles. Elle est sécrétée par les glandes des jeunes ouvrières et constitue le régime alimentaire exclusif de la reine des abeilles durant toute son existence. Qu'est-ce que ça contient ? Elle renferme une concentration exceptionnelle de minéraux, de vitamines, d'acides aminés et de glucides. Quel est son usage en cosmétologie ? Lorsqu'elle est incorporée dans un soin, la gelée royale contribue à réparer la peau et à protéger grâce à son action antibactérienne. Enfin, dans quel type de produit est-elle utilisée ? On la trouve autant dans certains soins capillaires nourrissants que dans les crèmes anti-âge pour le visage, des huiles émollientes pour le corps et des masques réparateurs.
Mythe ou réalité? Il semblerait que ce soit une réalité. Le gastro-entérologue Jean-René Lachance de l'hôpital Maisonneuve Rosemont doit parfois déboulonner ce mythe lors de sa pratique, car oui, il s'agit bien d'un mythe. Les hémorroïdes ne sont pas créés par le froid, mais bien par un problème hémorroïdaire préalable. C'est un facteur qui peut, à l'occasion, provoquer des saignements. par le froid intense, excusez-moi. Selon le site de référence médicale UpToDate, les hémorroïdes sont plus répandues chez les gens qui forcent lorsqu'ils vont à la selle ou qui, au contraire, souffrent de diarrhée chez les femmes enceintes ou ayant accouché.
Et nous voilà de retour à Kiosque Magazine de Canal M. Un petit article, des conseils pour motiver votre enfant, écrit par Laurie Boisvert sur le site web Nanny Secours, qui est très intéressant, ça se trouve même à Montréal. Et son article date d'octobre 2014, mais je crois qu'il va vous intéresser. Durant l'hiver, il n'est pas rare de constater une baisse de motivation chez les enfants. La diminution du nombre d'heures d'ensoleillement et les infections à répétition contribuent à accroître la fatigue des petits. En conséquence, les parents doivent faire preuve d'imagination pour favoriser le dynamisme chez leur bébé. Ah, voici quelques suggestions qui pourront vous aider à motiver votre petit. Le plaisir d'abord. Les enfants recherchent fondamentalement à avoir du plaisir et ils sont tous attirés par le jeu. Si vous leur proposez des activités divertissantes, ils seront automatiquement tentés d'y participer. Même les tâches ménagères peuvent être amusantes. La plupart des enfants sont motivés par les défis. Lorsque vient le temps de ranger les jouets, vous pourriez dire « Voyons, combien de jouets tu pourras ramasser en 2 minutes? » Une musique entraînante pourrait également inciter le petit à collaborer. Considérez les intérêts de votre enfant. Ce qui est motivant pour vous ne l'est pas nécessairement pour votre enfant. Tentez de voir si votre petit perçoit un avantage à faire ce que vous lui demandez. S'il n'en voit aucun, est-il possible de faire un compromis pour que la situation convienne à chacun? Optez pour une solution gagnant-gagnant qui correspondra avec ses goûts. Je vous encourage fortement à consulter votre enfant pour connaître ce qui le motive véritablement. Il est le mieux placé pour vous en informer et il sera probablement reconnaissant de votre considération. Permettez-lui de faire des choix. Certains enfants n'apprécient pas de se faire imposer une activité. Plus on les contraint à faire ce que nous voulons, plus ils résistent. Dans ce cas, il pourra être profitable de proposer deux ou trois options qui vous conviennent plutôt que d'exiger quelque chose de la part de votre enfant. Ainsi, ce dernier aura la satisfaction de pouvoir diriger certains aspects de sa vie. Par conséquent, il sera beaucoup plus motivé à se mettre en action. Par exemple, si votre enfant refuse de mettre son habit de neige seul, vous pourriez lui demander « Est-ce que tu préfères mettre ton bonnet ou ton manteau en premier? » Encouragez-le. Pour soutenir la motivation de votre enfant, soulignez fréquemment ses progrès, son intérêt prolongé, sa capacité d'attention ou son souci de bien s'appliquer. Incitez-le à expérimenter diverses choses afin qu'il découvre ce qui le passionne vraiment. S'il a quelques difficultés à faire une activité, offrez-lui votre soutien et vos conseils afin de faciliter la réussite de son objectif. Sortez prendre l'air. L'activité physique effectuée à l'extérieur favorise une bonne oxygénation du cerveau et une exposition au soleil revigore. Il n'y a rien de tel que de jouer dehors en famille pour amener la bonne humeur et la motivation. Sachez que plus votre relation parent-enfant sera de bonne qualité, plus votre enfant sera motivé à participer aux activités et aux tâches que vous lui proposerez. Accordez-lui du repos. Planifiez l'emploi du temps de votre enfant en fonction de ses capacités. Si son horaire est surchargé, il risque de s'épuiser rapidement et de vivre du stress. Cela pourrait contribuer à la baisse de sa motivation. Un enfant reposé sera nécessairement plus dynamique et persévérant lorsqu'il entreprendra une activité. Encouragez donc votre petit à prendre une pause dès qu'il présente des signes de fatigue. N'oubliez pas que les moments libres sont nécessaires à votre enfant. Ceux-ci lui permettront de se détendre en plus de favoriser le développement de sa créativité et de son imagination. Tenez compte de son niveau de développement. Il faut distinguer une capacité limitée de concentration d'un manque de motivation. Il est normal qu'un jeune enfant change de jeu plusieurs fois sur une courte période. Sa capacité de concentration se développera graduellement en fonction de sa personnalité. Son niveau de développement est selon les occasions de progresser, lui, qu'il saisira. À titre d'exemple, un enfant de 2 ans est généralement capable de se concentrer sur une tâche durant 2 ou 3 minutes, alors qu'un jeune de 5 ans pourra le faire plus de 15 minutes successives. Cultivez l'espoir. Un enfant qui croit sincèrement que sa demande sera satisfaite dans le futur n'aura pas tendance à baisser les bras facilement. À l'inverse, un enfant qui obtient immédiatement ce qu'il demande pourrait considérer que tout lui est dû et se découragera dès qu'on lui demandera d'attendre. Pour développer l'espérance chez votre enfant, faites-lui vivre régulièrement des délais. Soyez un modèle. Commencez-vous la journée en vous plaignant? Vous traînez-vous les pieds lorsque vient le temps d'aller faire les courses? Remettez-vous à plus tard les tâches qui ne vous plaisent pas? Votre attitude se reflétera sur celle de votre enfant. Si vous souhaitez que votre enfant soit enthousiaste au quotidien, veillez à l'être aussi. Un enfant motivé a la possibilité de vivre de nouvelles expériences enrichissantes qui le motiveront davantage. En tant que parent, vous avez le privilège de pouvoir contribuer aux bases sur lesquelles la motivation de votre petit reposera. Alors, aidez-le à commencer l'année du bon pied.
La semaine dernière se tenait le 30 janvier à Lille un congrès de pneumologie, excusez-moi, et c'est un article de Ingrid Aberfield de Santé Magazine. Le thème principal, l'asthme. Chez la plupart des enfants asthmatiques, la maladie est due à une allergie aux acariens. Alors voici les conseils de la rédaction pour s'en débarrasser. Privilégiez les doudous en synthétique. N'accumulez pas les peluches dans la chambre et le lit de votre enfant asthmatique, conseille le docteur Silcret Grieux. 4 ou 5, c'est suffisant et choisissez-les en matière synthétique, plus facile à laver et donc moins sujet aux acariens que ceux en laine ou en peau de mouton. une fois par mois, lavez-les à 60 degrés. Autre astuce anti-incarien, enfermez dans un sachet en plastique les peluches et doudous et laissez-les toute la nuit dans le congélateur. Autre astuce, asséchez l'air de la chambre. Rafraîchissez la pièce et asséchez l'air, deux conditions de vie néfastes au développement des acariens. En aérant chaque jour la chambre en grand pendant au moins 15 minutes, conseille l'allergologue. Autre astuce encore, changez souvent sa literie. La literie, c'est l'habitat préféré des acariens. Je recommande donc aux patients d'enfants asthmatiques d'acheter un oreiller bon marché et d'en changer tous les 2 ans, assure le docteur Silcret Grieux. Le matelas doit être changé tous les 5 ans. Préférez les literies avec sommier à latte, car l'air circule mieux, et évitez les futons qui font dormir l'enfant trop près du sol. Une autre astuce, optez pour une housse anti-acarien. Autre solution pour protéger votre enfant et conserver la literie plus longtemps ? Enfermez le matelas et l'oreiller dans une housse qui fera barrière aux acariens. Elle doit être de qualité médicale et en matière microporeuse afin de laisser passer l'air, mais pas les petites bêtes. Choisissez-la sans traitement chimique et avec une fermeture éclair permettant d'envelopper la literie. Plusieurs marques en proposent. S'il doit dormir chez ses grands-parents, votre enfant pourra emporter la housse anti-acarien. Investir enfin dans un aspirateur performant et préférer une déco anti-poussière également. La poussière peut contenir des quantités incroyables d'acariens. Il est donc préférable de ne pas la laisser s'installer. Enfin, dernière astuce, lui offrir un séjour à la montagne. Au-dessus de 1200 mètres d'altitude, il n'y a plus d'acariens. Parlons douceur avec ce dernier article, le miel excellent pour la santé. C'est un article d'Edouard Ballot de Bioinfo, magazine du mieux vivre, du 10 octobre 2014. Liquide ou plus dur, clair ou foncé, le miel fait partie de ces aliments nobles qu'on retrouve sur bon nombre de tables au petit déjeuner. Par ailleurs, les chercheurs mettent de mieux en mieux en évidence ses qualités et ses bienfaits pour notre santé qui varient en fonction de là où les fleurs sont butinées. Résultat du plus fantastique des mariages, celui des abeilles et des fleurs, le miel compte parmi les 3 principales denrées issues de l'animal non tué, directement consommable par l'homme, aux côtés du lait et des œufs. Il est aussi le seul aliment humain issu des insectes. Et quel aliment ? Plutôt pur, car les abeilles ont tendance à éliminer les substances toxiques lorsqu'elles le fabriquent, sa qualité peut être variable, fragile, et ses vertus thérapeutiques les plus élaborées peuvent s'estomper, voire disparaître. À entrer d'emblée dans les subtilités des miels, on en oublierait presque sa plus évidente et incontestable propriété. Du fait de sa composition en sucre rapide, aisément assimilable, c'est un aliment énergique exceptionnel, qui ne souffre d'aucune transformation et peut remplacer avantageusement les sucres raffinés, le blanc en premier. Dans tous les cafés et restaurants, nous devrions exiger des dosettes de miel.
Oui, ça c'est bon.
Pas mal. Oui.
C'est une protection contre certains cancers. Parmi ses vertus, rappelons l'effet prébiotique du miel, c'est-à-dire qu'il stimule l'activité de bactéries favorables à la microflore intestinale. Simultanément, ses qualités psychochimiques le dotent d'un pouvoir antibactérien et cicatrisant, suffisamment remarquable pour que son usage se soit répandu dans certains services hospitaliers comme en chirurgie. Par ailleurs, le miel est une source alimentaire d'antioxydants, majoritairement de flavonoïdes, des molécules aux propriétés anticancéreuses, dont la concentration se voit au caractère plus ou moins foncé du produit. Les miels de châtaignier, de sarrasin ou de thym, entre autres, en sont bien pourvus. Mais il suffit d'augmenter la consommation de miel plus clair pour obtenir la même dose. Les miels monofloraux présentent quant à eux des vertus thérapeutiques spécifiques avérées. Le miel de romarin est réputé pour le drainage hépatique, le tilleul pour son pouvoir somnifère, la lavande et le thym du fait de leur qualité antiseptique pour les bronches et les poumons.
On en apprend des choses aujourd'hui, il me semble.
Ouais. Le miel d'acacia, mon préféré, un des rares à rester liquide et recommandé pour prévenir et traiter les troubles gastriques. C'est par ailleurs le seul miel consommable par les diabétiques. Les mielas d'arbres, sapin, chêne notamment, sont eux spécifiquement nutritifs. La liste des miels spécifiques est très longue et il faut souhaiter qu'elle le reste. Cependant, elle ne saurait ternir la valeur des miels dits « toutes fleurs » ou « polyfloraux ».
J'aimerais secouer le soleil, qu'il en pleuve des rayons, j'y collerai des tatanes, ce feignant à la con. Évidemment, c'est l'enfer, les engelures, les pantalons, les allées de l'hiver. Je sais, je me plains, mais c'est bon. J'aimerais bien t'y voir, le cul dans la neige. Avec le cœur comme un goulet d'avalanche, mes fingers comme des glaçons. J'aimerais bien t'y voir et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me pète moi. Parfois même, j'aimerais être toi. Pas souvent, mais des fois, puis surtout. De temps à autre, j'aimerais qu'il fasse beau. Et puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse beau. Et puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse beau. Et puis surtout, j'aimerais qu'il fasse beau.
Après ce titre de Gordon Sunshine, les aléas de l'hiver, ben oui, on est en plein dans
Sunshine,
l'hiver.
Sunshine, ma fille, Gordon Sunshine.
Ah, pardon, excusez-moi, c'est bon. Donc, merci Janine pour ta correction. Donc, on a parlé du miel et puis quelque chose qui va très bien, qui se marie très bien avec le miel, ce sont les tisanes, en fait. Okay. C'est une bonne tisane, là, quand il fait froid.
Moi, je viens de les découvrir, alors j'ai hâte de t'entendre.
Ah, OK, c'est bon. Donc, c'est ça, moi, je vous garde au chaud. Ben, après ça, je vais vous parler de bière aussi, mais si on en boit pas mal, ça tient chaud aussi. Alors, d'abord, avec les tisanes, quels sont leurs bienfaits? C'est un petit texte que j'ai trouvé sur passeportsanté.net qui date du 22 janvier 2015. L'homme utilise les plantes pour se soigner depuis des millénaires. À travers les âges, de nombreuses civilisations ont exploité leurs bienfaits, que ce soit en Mésopotamie, dans l'Égypte antique, en Inde, avec la célèbre médecine ayurvédique, au Pérou ou en Chine, où la pharmacopée recense plusieurs centaines de plantes médicinales. L'une des formes les plus traditionnelles qui soit est la tisane. Retour donc sur ses véritables bienfaits. La tisane est un moyen très accessible de profiter des bienfaits de la phytothérapie. Donc la phytothérapie qui consiste en fait à traiter ou prévenir des maladies par l'usage des plantes. La phytothérapie consiste à extraire des composés aromatiques des plantes par différentes méthodes de préparation, telles que la macération qui consiste à laisser tremper le matériel végétal dans de l'eau froide durant plusieurs heures. Il y a aussi la décoction qui consiste à faire bouillir l'eau dans laquelle repose le matériel végétal pendant quelques minutes, et également l'infusion qui consiste à verser de l'eau chaude sur le matériel végétal et le laisser tremper pendant quelques minutes.
Ah bon.
Donc, pour peu que la plante soit de bonne qualité, la tisane est un outil thérapeutique assez fiable, semble-t-il. Que le matériel végétal soit frais ou séché, les cellules savent maintenir leur intégrité en l'absence d'eau, un processus qu'elles utilisent notamment en prévision des périodes de sécheresse. Elles conservent donc leur contenu en principe actif durant une longue période et les préservent des mécanismes susceptibles de les altérer, comme l'oxydation. Pour s'en convaincre, il suffit de froisser par exemple des fleurs de lavande ou une feuille de menthe séchée entre ses doigts et sentir les arômes qui s'en dégagent. Ce sont les principes volatifs. Et je ne suis pas réveillée aujourd'hui, je m'excuse. Les racines, les tiges et les graines conservent d'ailleurs mieux ces principes que les feuilles et les fleurs. Combien de temps puis-je conserver ma tisane? La durée de vie d'une tisane dépend à la fois de la façon dont est traitée la plante, qu'elle soit broyée ou arrachée, et la façon dont elle est conservée. Plus une herbe sera broyée et moins elle se conservera car elle perdra davantage d'huile. Même si leurs saveurs peuvent rester durant des mois, les propriétés médicinales sont dues aux huiles dont la teneur décroît avec le temps. C'est pourquoi on recommande de conserver les herbes en sachet 2 à 3 mois au maximum et les herbes entières dans un contenant hermétique durant environ un an. Alors, petit tour en fait de quelques tisanes qui sont très connues. Donc on parle de différentes propriétés, faciliter la digestion. Je suis en train de perdre ma voix, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Faciliter la digestion, améliorer le sommeil, calmer l'anxiété, y en aurait-il une pour faire retrouver la voix? Petit tour de 5 tisanes qui ont retenu l'attention du fait de leurs faibles effets secondaires et de la littérature scientifique existante à leur sujet. La première, la tisane de gingembre pour les nausées. Donc, le gingembre, semble-t-il, est indiqué dans les états de fatigue, de nausées, ainsi que pour des problèmes intestinaux. Quand dit la recherche scientifique? La recherche dit que oui, il y a une présomption scientifique en ce qui concerne les nausées. Par contre, l'action de la tisane au gingembre contre la fatigue et les problèmes intestinaux relève d'un faible niveau de preuve scientifique. Alors, c'est le petit bémol. La deuxième tisane qui peut intéresser, c'est une tisane de mélisse pour contrer l'anxiété. Donc la mélisse, qui est une plante à feuilles gaufrées d'odeur très agréable, est souvent indiquée dans ce cadre car elle est réputée comme un spasmolytique des muscles lisses. Donc, à ce qui paraît, elle serait bonne pour contrer l'anxiété. Semble-t-il, c'est vrai, la recherche scientifique sur la mélisse a établi une présomption scientifique concernant le sommeil et l'anxiété. En revanche, elle n'a pu établir de preuves concernant les boutons de fièvre ou les feux sauvages pour lesquels elle est parfois recommandée. En troisième position, nous avons une tisane de menthe poivrée contre le syndrome du côlon irritable. La recherche, oui, a établi une présomption scientifique aussi pour l'efficacité de cette tisane contre le syndrome du côlon irritable. Donc, c'est intéressant. Et puis, nous avons également la tisane de valériane pour améliorer le sommeil. La tisane de valériane, qui est aussi... En fait, la valériane est aussi appelée l'herbe au chat parce qu'elle attire, semble-t-il, son odeur en séchant attire curieusement les chats. Donc, elle est appelée aussi l'herbe au chat. Donc, la recherche dit que, oui, cette tisane de valériane a une capacité anxiolytique et aide pour l'endormissement. Il convient d'éviter les opioïdes, l'alcool et les benzodiazépines en cas de prise de valériane, par contre. Et enfin, la tisane d'ortie, oui, en guise d'antalgique. Donc, de nombreux phytothérapeutes la considèrent comme étant une plante, l'ortie, comme une plante anti-inflammatoire. Il y a une présomption scientifique. Non, Janine, nous te perdons. On va te faire une petite tisane. Donc, c'est ça. Donc, il y a une présomption scientifique pour la tisane d'ortie. Concernant sa capacité diurétique ainsi que son efficacité dans le traitement de l'hypertrophie prostatique bénigne. En revanche, elle n'a pas encore prouvé son intérêt dans la gestion de la douleur. Village, 1000 brasseries. Un article de David Lévesque Gendron et de Martin Thibault paru dans le Journal de Montréal du 22 janvier 2015. Si la tendance se maintient, le Québec risque de compter deux fois plus de brasseries à la fin 2015 qu'à la fin 2009. 6 ans pour doubler, une improbable croissance dans les deux chiffres. De nombreux observateurs se demandent avec raison où cette croissance effrénée cessera bien. Le marché approcherait-il d'une saturation? Selon toute vraisemblance, non. C'est la gastronomie québécoise entière qui est en croissance. Le phénomène est bien loin de se limiter aux microbrasseries. Il s'étend aux vignobles, cidreries et autres fromageries, sans compter la prolifération des détaillants spécialisés en produits du terroir. Donc, pour ce qui est, en fait, l'explosion propre au marché de la bière n'est pas non plus propre au territoire québécois. De nombreux pays d'Europe vivent une situation similaire, tout comme l'Amérique du Nord tout entière. Nous avons depuis belle lurette dépassé la mode passagère. Rôle social des microbrasseries. Pourquoi ne pas imaginer un scénario où chacune des plus ou moins 1000 municipalités québécoises compterait sa brasserie? Il y en a en fait 1133 municipalités au Québec. Ce rêve n'est pas si fou, il ne représenterait en fait qu'un retour à la source, une nouvelle visite d'une époque où la connaissance du visage de nos fournisseurs revêtait une importance. D'ailleurs, c'est une situation qui existe encore dans certains bastions de la bière traditionnelle, notamment la Bavière du sud de l'Allemagne, ainsi que certaines régions d'Autriche, d'Angleterre et de Suisse. La prolifération des brasseries modernes représente en quelque sorte l'ultime représentation de la vengeance des relations humaines envers l'inhumanité des contacts socio-technologiques propres à notre époque. Boire une bière, partager une bière, si un acte peut être décrit comme un lubrifiant social, c'est bien celui-là. Petite brève, février, le mois du cœur. Chez les femmes, 28% des décès sont dus à une maladie cardiovasculaire. C'est 2% de plus que chez les hommes.
L'appli Tout Miel Tout Sucre, l'organisme de valorisation de l'apiculture urbaine Alvéole, vient de lancer une chouette application de géolocalisation qui permet de savoir, en vous révélant quelle essence d'arbre pousse près de chez vous, ce que goûterait le miel que vous produiriez si une ruche était installée dans votre cour, sur votre toit ou sur votre balcon. Alors, êtes-vous tenté ? Il vous supplie d'appeler Alvéole qui s'occupe de l'installation de la ruche, de son entretien et de la récolte de votre miel garanti sans pesticides et non pasteurisé. Besoin, n'est-ce pas?
Eh bien moi, autre sujet complètement ailleurs, les filles, quand on va faire des achats, ce qu'on a dû faire au temps des fêtes, il faut savoir qu'il y a des politiques d'échange et de remboursement. Le marchand doit-il obligatoirement échanger ou rembourser un bien si je lui présente la facture? Mm-hmm. Et non! Les détaillants ne sont pas légalement tenus d'adopter une politique d'échange et de remboursement. Du coup, rien ne les oblige à nous rembourser, à nous donner une note de crédit ou à échanger notre bien. Et ce, même si on présente notre facture. Toutefois, si le bien acheté est défectueux, c'est une autre histoire. En effet, la loi sur la protection du consommateur prévoit que le bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le commerçant qui nous a vendu un bien a donc certaines obligations légales envers nous, peu importe sa politique d'échange et de remboursement. Si notre produit est défectueux, il doit alors le réparer, l'échanger ou nous le rembourser. Pour en savoir plus, opc.gouv.qc.ca. Et dans un autre petit conseil aussi, quand faut-il remplacer un chauffe-eau? Qu'il soit à l'électricité ou au gaz, un chauffe-eau a une durée de vie de 10 à 12 ans. S'il est d'excellente qualité, il peut vous rendre service pendant une quinzaine d'années sans problème. Cependant, si vous remarquez que la base de l'appareil est humide ou rouillée, que l'eau du robinet devient jaune, qu'elle est moins chaude ou qu'elle s'épuise plus rapidement qu'avant, le chauffe-eau est à la fin de sa vie utile. Pour éviter les dégâts d'eau et de mauvaises surprises, mieux vaut le remplacer avant qu'il ne rende l'âme. Vous pouvez vous procurer un chauffe-eau électrique ou au gaz dans un magasin à grande surface et le faire poser par l'un de leurs installateurs professionnels. Vous pouvez aussi le louer ou l'acheter chez Hydro-Solutions ou chez Gaz Métro Plus. Eh bien, voilà les filles, notre heure est terminée. Ça
déjà,
passe vite.
Déjà, oui, toujours, toujours.
Agréable. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. Merci les filles. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous joindre au 1-800-361-0635. Ils seront toujours appréciés. Ou vous pouvez nous écouter nos émissions sur Canal M de Vues et Voix. Alors, à mercredi prochain. Salut les filles!
Salut!
Au revoir!